Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Xavier Jaravel.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue professeur à la London School of Economics et président du comité d'évaluation de France Relance. C'est toujours le cas d'ailleurs.
Non, on a rendu notre rapport en janvier.
Donc, et donc c'est fini.
C'est maintenant fini. Et bon, vous pouvez consulter le rapport, 900 pages sur le site de France Stratégie. Ouais. Une synthèse de 2 pages.
Oui, mais j'ai consulté la synthèse, il n'y a pas de problème. Vous avez publié « Marie Curie habite dans le Morbihan, démocratiser l'innovation à la République des idées au seuil ». Ça marche ?
Ça marche bien.
Avec Bruno Le Maire en parle dans La Voix française.
Bruno Le Maire en parle dans son nouveau livre et avec un titre de chapitre, Arthur Mensch habite encore en France, le fondateur de Mistral.
Alors et Mistral, c'est le grand espoir de l'intelligence artificielle.
Et à voir s'il reste en France ou pas, on débattra plus tard quand on parle de l'IA Act, je crois.
Non, on dira, parce que vous m'avez fait remarquer ça tout à l'heure avant l'émission, et le réflexe de Robin est de dire, avec ce qu'on vient de faire en matière de régulation sur l'intelligence artificielle, ils ne vont pas le rester longtemps. Vous êtes sûr de ça ?
Je pense qu'on a pris
plus près du micro, Robin.
On a pris une des réglementations les plus strictes du monde,
l'IA Act, qui a été validé
au niveau européen, avec une réglementation qui vise à faire prévalider un certain nombre de modèles dits fondamentaux en amont par un régulateur, que ce soit un régulateur européen ou des régulateurs nationaux, et ça crée énormément de bruit. En avance de phase, c'est 2026 l'application concrète de cette loi, mais dans la période 2024-2026 c'est un grand flou qui prédomine dans un secteur qui est encore très inconnu, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la vision de ce qui sera dans 2 ans, les modèles LLM, les modèles de langage étendu, 2 ans auparavant c'était quelque chose qui était encore très mystérieux dans les laboratoires, et donc en faisant ça on crée un énorme complexité et beaucoup de bruit dans l'industrie, donc il y a de fortes chances effectivement que ça puisse empêcher l'innovation sur le continent européen, à mon avis.
Ah oui, c'est sympa, c'est super rassurant. Habite encore en France.
Allez-y. Peut-être une autre perspective, mais l'avenir dira ce qui se passe, mais c'est de dire que l'Union européenne a un marché intérieur qui reste très vaste, et donc en posant certaines réglementations, certaines régulations, on peut essayer d'orienter différemment le développement de modèles, avoir différentes réglementations qui permettent une approche plus éthique de certains algorithmes, combattre des biais algorithmiques, etc. Donc le risque, c'est que d'autres algorithmes se développent ailleurs, où il n'y a pas ces régulations, et qu'ensuite, par le jeu, par exemple, de la concurrence internationale, en fait, les entreprises étrangères nous prennent des parts de marché à l'international. Mais il y a aussi une chance que des modèles soient développés en Europe avec cette autre approche et que ça réoriente la technologie. Donc, à voir ce qui se produira en effet.
Bon, vous ne décrivez pas forcément une Europe qui perd à tous les coups, c'est ça que je dois comprendre. Les dépenses publiques. Bon, Fipeco.fr fait des photographies toujours hyper précises avec François Eckhall, qui était d'ailleurs avec nous hier sur ce plateau. Et donc les dépenses chez nous, sont pas exactement les mêmes. Elles sont très importantes et puis elles sont pas exactement les mêmes que dans les autres pays. Et notamment ce qui nous distingue, comme par hasard, c'est la dépense sociale, principalement les dépenses de retraite, aussi la dépense de santé. Et au détriment, nous ils expliquent Fipeco.fr, de l'éducation et de la sécurité intérieure. Vous êtes surpris, Xavier Jaravel, par cette photographie qui semble être une photographie immuable.
Voilà, vous l'avez dit, on n'est pas vraiment surpris parce que c'est le même constat depuis des dizaines d'années. On a des dépenses publiques en général plus élevées qu'ailleurs dans l'Union européenne sur la plupart des postes de dépenses, mais notamment sur les retraites. Les retraités sont plus fortunés, on a un revenu plus élevé que la plupart des actifs. Et en même temps, les retraités sont des électeurs importants, y compris pour le gouvernement actuel. Et c'est ça un peu le cœur du problème, c'est-à-dire sous-indexer les retraites.
Vous allez vous faire plein d'amis là.
Non, mais c'est d'ailleurs dit dans l'article de Fipeco.
Non, mais continuez, parce que généralement, quand on évoque ce sujet, il y a des réactions très vives et très immédiates.
Au final, quand vous avez un problème de finances publiques, vous décidez qui va contribuer. Et jusqu'ici, on n'a pas trop fait contribuer ceux qui sont déjà retraités. On a repoussé, par exemple, l'âge de départ à la retraite. Donc, ça fait contribuer les actifs proches de l'âge de départ à la retraite. Et c'est difficile de changer ça, tout simplement parce que les retraités sont les principaux soutiens du gouvernement. Et c'est tout à fait du coup compréhensible que ce soit une population privilégiée par ces réformes. Donc on en pense ce qu'on veut, mais c'est quand même le fait central probablement de l'économie politique du pays. Et c'est pour ça que c'est difficile de changer la donne. Après, il y a d'autres postes de dépenses publiques qu'on peut réduire. Il y a tout un enjeu d'efficacité de la dépense sur plein d'autres postes, y compris d'ailleurs sur l'éducation. C'est vrai qu'on sous-investit plutôt sur ces sujets d'investissement d'avenir, c'est des postes de dépenses moins dynamiques. Mais en même temps, ils restent bien financés par rapport à d'autres pays et avec une efficacité en demi-teinte. Donc globalement, ce qu'on veut, c'est avoir un système qui permette de réduire la dépense publique sur plein de postes, idéalement aussi sur effectivement les retraités pour mettre tout le monde à contribution. Mais c'est très difficile politiquement.
Est-ce que quelqu'un défend les retraités? Parce que là, bon, je vais avoir des réactions très rapidement. Généralement, quand on évoque le sujet des retraités, qui sont privilégiés ou en tout cas qui ne sont pas mis à contribution, ça passe très mal auprès des gens qui sont retraités.
C'est difficile.
Vous savez qu'Emmanuel Macron a enterré l'idée d'imaginer qu'on sous-indexerait qu'il y aurait une sous-indexation des pensions en 2025. Idée qui avait été susurrée au début par Thomas Cazenave, le ministre du budget. Oui, allez-y, Ronald Moal.
Moi, je pense sur ce sujet-là, en fait, il y a deux points. Alors, sur le système de santé, je pense qu'on a un système de santé qui rend trop indolore, finalement, l'indemnisation. C'est-à-dire qu'on a tous le sentiment ou l'impression que le système de santé est gratuit. Donc ça donne lieu à beaucoup d'abus, je pense. On pourrait y revenir, d'ailleurs, si on parle. Providence, c'est un protecteur, ça c'est un vrai sujet. Et sur les retraites, je pense qu'on a raté. Alors, si on oublie le débat politique, qui est un vrai sujet effectivement de prise en compte des électeurs, je pense qu'on a quand même un vrai sujet qu'on a raté, sans revenir sur tous les éléments qui me plaident à dire qu'il n'y a plus assez d'actifs par rapport aux retraités, c'est la retraite par capitalisation. Je pense qu'on a raté plusieurs fois l'occasion de mettre en place un système dont on ne veut pas parler, parce que c'est un gros mot, alors qu'il existe implicitement pour ceux qui le peuvent, ça s'appelle l'assurance vie en France,
oui, non, mais
etc.
C'est tout à fait vrai.
On a raté l'occasion de mettre en place un système qui pourrait bénéficier à tout le monde et qui n'est pas.
Vous avez vu que les Allemands
un gros
le font.
Mot. Comment?
Les Allemands le font.
Oui, les Allemands le font.
Mais alors, ils vont mettre en place un fonds public. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent, en fait, des actifs qui va être placé, mais c'est de l'argent public.
Bah, pourquoi pas?
Et donc, c'est d'abord par de l'endettement.
On aurait appelé différemment, ça aurait peut-être mieux marché. Dire qu'on dit système par capitalisation, ça fait tout de suite gros mot, alors qu'en fait, c'est le sens de l'histoire. Donc, je pense que sur la santé, encore une fois, c'est un sujet. C'est trop indolore et les systèmes, l'impression qu'ils coûtent pas cher ou qu'ils coûtent rien. Et sur la retraite, c'est qu'on a raté un virage plusieurs fois, j'ai envie de dire, y compris pendant la mandature d'Emmanuel Macron, bien sûr.
Il faut mettre les retraités en contribution, Romarie Vaton.
Oui, je pense que c'est assez évident, mais c'est pas du tout
le rôle qui a été. Vous avez tous moins de 50 ans, là, hein, c'est pour ça que vous dites ça. J'ai remarqué que c'est toujours les jeunes qui ont envie de taper sur les retraités.
Moi, j'ai un tout petit peu blessé.
Moi, j'ai plus aussi. Moi, je suis neutre, vous savez, je dis rien, mais chaque fois qu'il y a une prise de position en faveur de l'idée qu'il faudrait mettre tout le monde à contribution, généralement, c'est les plus jeunes qui sont favorables à l'idée de mettre à contribution les plus vieux.
Et c'était l'ADN initial du macronisme, hein, je le rappelle, à la base.
C'était quoi l'ADN du macronisme?
C'était justement de rééquilibrer le niveau de vie entre les actifs et les retraités, avec notamment cette augmentation de la CSG. Ciblé initialement sur les retraités, et on voit bien qu'au fil du quinquennat et avec la perte croissante du vote des jeunes, hein, puisqu'aujourd'hui je crois qu'on est passé de 30% du vote des moins de 30 ans, on a autour de 5% aujourd'hui pour la liste Renaissance, on voit bien que les orientations politiques amènent à ce qu'on a connu début janvier, c'est-à-dire une réindexation relativement forte des pensions de retraite qui a, je sais pas si on peut dire grevé, mais en tout cas qui a coûté 14 milliards en année pleine
cette
pour
année,
les finances publiques.
Donc,
pas cette année, toutes les années.
Cette année, c'est 14 milliards et demi dans le budget 2024.
Oui, et puis voilà. Ce sera 14,5 plus la réindexation de 2025. C'est 14,5 pour toutes les années. On a décidé collectivement de consacrer 14 milliards par an supplémentaires à l'indexation des retraites, alors que une sous-indexation est un mécanisme extrêmement indolore sur longue période et qui permet d'ajuster les comportements. On a refusé ce choix-là pour des caractéristiques, comme le disait Xavier Jaravel, éminemment électoralistes. Et c'est dommageable parce que, évidemment, ça obère l'avenir.
Un point d'indexation, c'est à peu près 2,7 milliards. Voilà. Oui, allez-y, Xavier Jaravel. Prenez la parole librement, tous. Oui. Hein, vous connaissez la maison.
Non, parce qu'on évoque les questions d'indexation. Et donc, juste pour faire le lien avec un point qui peut sembler un peu technique, mais que je pense qui est intéressant sur ça, c'est le calcul de l'inflation, notamment dans des périodes d'inflation élevée comme aujourd'hui. En fait, il faut mesurer l'évolution du panier de consommation des ménages. Et ce panier de consommation peut être différent en fonction de l'âge, en fonction des caractéristiques. Et en fait, en France, on n'a pas un appareil statistique très bon pour mesurer ça. Et donc, moi, une hypothèse que je fais, c'est qu'on a mal, on mesure pas très bien les comportements de substitution. Et donc, c'est-à-dire quand l'inflation est élevée, qu'elle varie entre plein de catégories de biens, les ménages se déportent sur les biens qui ont des hausses de prix moins importantes. Et donc, du coup, l'inflation, il y a une chance, en tout cas, que dans la période récente, elle soit un peu plus faible que ce qui a été mesuré. Ce serait mon hypothèse. Et donc, si c'est le cas, en fait, investir dans le renforcement de l'appareil statistique pour mesurer ces changements de panier de consommation à court terme, ça peut être très important pour même sans se vouloir sous-indexer, en tout cas indexer correctement. Et donc on aurait peut-être pu épargner quelques milliards chaque année.
J'ai un auditeur qui me dit que je n'ai pas présenté mes deux autres invités quand même. Non, c'est la première fois que ça m'arrive. Avec nous, Ronan Lemoal, fondateur d'Épopée Gestion, et puis Robert Rivaton, directeur général de Stona, et fondateur de Real Estate, membre du conseil scientifique de la Fondapol, et qui a publié Sourions, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Bon, allez-y, Robert Rivaton. C'est très fort. Heureusement que les gens sont plus vigilants que moi.
On parlait de consommation, juste pour rappeler ce chiffre, mais en valeur absolue, la France est le pays qui dépense le plus dans le tourisme, pour son tourisme, pour sa population. Ça reflète juste qu'il y a des gens qui ont de l'argent et du temps pour réaliser ces activités touristiques.
Bon, comment est-ce que vous comprenez l'État-providence qui cède la place à l'État protecteur, Ronan Lemoal ? Parce que moi, j'ai pas tellement compris cette histoire. Alors, la fin de la gratuité universelle, ok, je vois à peu près ce que ça veut dire.
Moi, je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Je pense que, typiquement, ma compréhension, c'est qu'aujourd'hui, l'État protecteur, c'est un État dans lequel on n'a plus conscience du coût du système. C'est-à-dire, grosso modo, la santé est gratuite. On parlait de la retraite tout à l'heure, on pourrait multiplier l'éducation, on pourrait multiplier tous les sujets. Et on voit bien qu'on est arrivé à un point où, sur la forme en tout cas, on ne comprend plus exactement comment le système est. Personne ne comprend comment le système est financé, tout le monde croit qu'il est gratuit. Donc ça, je pense que c'est un vrai sujet.
Vous croyez vraiment redonner... que tout le monde croit qu'il est gratuit ?
Ah ben je crois. Aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, sur la santé par exemple, plus personne n'a le sentiment que la santé a un coût. Si vous dites à quelqu'un la réalité de ce que coûte malheureusement l'hospitalisation de quelqu'un, par exemple en réanimation, ça va lui paraître effarant par rapport à ce qu'il va payer à la sortie. Heureusement, si tout va bien, ça n'est rien. Donc en fait, je pense que dans l'esprit, il y a un décalage réel entre la réalité des coûts de nos systèmes sociaux et ce que nous payons au final. Ça, je pense, c'est un vrai point.
J'ai un exemple d'ailleurs quand même sur la méconnaissance des vrais prix, puisque j'avais un copain qui était urgentiste et qui me disait souvent les gens viennent tard parce que ça les arrange aux urgences. Ils savent pas que par-ci une certaine heure, on est sorti du tarif sécu à 23 euros et qu'on est trois fois plus élevé parce que c'est pas le même horaire. Et là, effectivement, il y a une méconnaissance complète du vrai prix.
Et donc je pense qu'il faut remettre ça. Il faut remettre un peu. Ça paraît peut-être antisocial que de dire ça, mais il faut remettre de la valeur et donc du prix dans le système de santé, notamment le système de protection sociale. Et puis après, il peut y avoir également un problème de fond. Le problème de fond, c'est que je pense qu'on a perdu aussi la notion, et ça c'est un problème beaucoup plus global dans la société, la notion de ce que c'est qu'une collectivité qui vit ensemble, c'est-à-dire des gens qui financent le système social pour que d'autres puissent en bénéficier aussi. Et je pense que ça c'est un des gros sujets de société qu'on a demain. Donc l'État-providence, l'État-protecteur, c'est aussi remettre un bon balancier au sens de comment le système est financé, par qui, en quoi réussir est une bonne chose, que ça permet y compris de financer ces systèmes. Et ça je pense que c'est un vrai sujet de société.
Ok, vous voulez réagir, Xavier Jaravel ?
Oui, ben, parce
que je comprends ce que vous dites, mais je ne vois pas trop comment on va faire.
Je ne sais pas comment exactement interpréter le terme d'État protecteur, mais une autre question, c'est la question de la compréhension du système, de son financement. En fait, il y a aussi la question de la lisibilité, de la protection et du nombre d'aides auxquelles on peut être éligible, et notamment des taux ensuite marginaux d'imposition que ça crée. C'est-à-dire que si j'ai un salaire plus élevé, je vais perdre accès à telle ou telle aide. Et on sait qu'en bas de la distribution des revenus, vous avez des taux marginaux assez élevés du fait de systèmes comme la prime pour l'activité. Mais en fait, vous avez plein d'autres, et donc vous avez des gens qui ont des revenus similaires, mais qui ont des taux marginaux très différents parce que, du fait de leur situation familiale, par exemple, ils ont d'autres aides auxquelles ils pourraient perdre accès en ayant tel ou tel salaire. Donc un autre sujet, c'est de rendre le système plus lisible. Votre expression me fait penser un peu à l'idée d'une sorte de Big Bang, où on dirait on change de système. Donc si on voulait effectivement se lancer dans cette direction-là, c'est le sujet lié au revenu universel, ou fusionner plusieurs aides, les rendre plus lisibles, et essayer de réduire les taux marginaux d'imposition, au moins pour certains qui aujourd'hui ont des aides, en fait, qu'ils perdent et qui du coup réduisent beaucoup les incitations à travailler. Et donc ça, c'est un autre sujet qui me semble très important.
C'est le grand combat de Gabriel Attal depuis qu'il est arrivé, les incitations à reprendre un emploi et à travailler. Là, c'est pareil, ça fait maintenant 3 semaines, 1 mois qu'on essaye de trouver les outils pour y parvenir. Personne n'a la solution, parce que malheureusement, la remise à plat complète du système vers une sorte d'impôt négatif à la Milton Friedman, c'est pas d'actualité.
En tout cas, ce serait une interprétation possible de changer d'un modèle.
Oui, mais ça, Xavier, c'est un truc d'expert. Voilà,
vous avez d'ailleurs une commission d'experts avec Antoine Bozio et Étienne Vasmer qui font un rapport sur ça et qui sera rendu, a priori, en avril ou mai.
Oui, mais j'ai hâte de le découvrir.
Donc, ce sera intéressant de voir ce qu'ils mettent en avant.
Ça vous réaction à ce qu'on vient de se dire, là, sur l'idée de tout. Parce que c'est la suite des propos de Gabriel Attal lors de son discours de politique générale sur la désmicardisation, ce que vous dites. Et tous les problématiques d'effet de seuil. Mais personne n'a la boîte à outils qui permet de régler cette situation. réaction ou élégie,
non,
si
pas vous sur voulez. La après, standardisation, mais voilà. sur la question de à qui la dépense en France profite. Il y a, et c'est ressorti hier sur Twitter à la suite des propos de Le Maire, ces magnifiques travaux faits par France Stratégie. Si vous voyez, je pense que c'est France Stratégie qui donnait ce que vous percevez en net par de l'État en fonction de votre âge. Et donc la courbe est absolument magnifique puisqu'elle montre, on revient sur le sujet des retraités, mais elle montre évidemment qu'on perçoit énormément plus à partir de 55, 60 ans, dans des proportions absolument gigantesques. Et donc on voit bien, tout en participant relativement peu à l'effort commun, ce qu'on vient de décrire, donc on voit bien que la question de qui finance et qui reçoit est un sujet légitime et devient de plus en plus un sujet générationnel. Et je pense que vous allez avoir une opposition politique de plus en plus forte, et on le voit aujourd'hui, pourquoi les partis populistes en Europe, et pas qu'en Europe, dans les pays développés en général, captent les voix des jeunes, c'est aussi parce qu'ils ont un discours qui va profondément à l'encontre ou contre cette redistribution qui est très orientée vers des publics plus âgés qui, eux, ont plutôt tendance à voter pour des partis soit centristes, soit des partis qui sont au pouvoir.
Ça veut dire qu'il faut modifier le mode de financement de la protection sociale.
Ah ben c'est... Là, oui.
Voilà.
Oui.
Bah, on va en retomber sur nos histoires de CSG sociale ou de TVA sociale.
Bien sûr.
One more.
Je ne sais pas s'il faut modifier le mode de financement.
Ronald Moal.
Je reviens sur mon point malgré tout, parce que je pense que c'est quand même un point de société hyper important. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont le sentiment, encore une fois, que c'est l'État, dans sa toute puissance, qui distribue l'argent, effectivement, qu'il distribuerait mal,
oui,
qu'il distribuerait effectivement aux retraités ou aux gens qui, finalement, ont le moins besoin par rapport aux populations jeunes qui sont en souffrance, effectivement, aujourd'hui. Et on va dire que la crise du Covid n'a pas aidé, parce que la crise du Covid a laissé planer le sentiment selon lequel il suffisait d'ouvrir n'importe quel tiroir et on trouvait des billets de 500 euros ici ou là. Et donc, je pense malgré tout que, et je n'ai pas la solution pour ça, Nicolas, mais je pense que c'est un point fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas d'une manière ou d'une autre à restaurer l'idée selon laquelle si on forme bien les gens, si on les aide bien à grandir, entre guillemets, qu'ils ont des jobs dans lesquels ils gagnent bien leur vie, la réussite sera une manière de contribuer au système de protection sociale français. Et je pense que ça aussi, c'est une notion de bascule entre l'État-providence et l'État protecteur. Et tant qu'on n'aura pas réussi à restaurer l'idée sur laquelle réussir, ce n'est pas mal, gagner de l'argent, ce n'est pas mal, on n'arrivera pas à traiter le sujet. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est bien ceux qui gagnent bien leur vie, qui financent le système de protection sociale. Et heureusement, j'ai envie de dire. On a perdu totalement cette notion. Ce que dit Robin est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment que c'est l'État qui distribue. Et que la richesse, elle vient de on ne sait pas où. Et ça, je pense que c'est un des points clés aussi, dans les années qui viennent, de restauration un peu d'une forme de visibilité, en tout cas.
Je vous avais dit que dès qu'on parle du sujet des retraites, ça réagit. Ben voilà, ça réagit. Les gens me disent qu'ils ont cotisé toute leur vie, qu'ils n'ont rien volé, qu'ils ont droit à une forme de promesse qui est la retraite après avoir cotisé toute sa vie pendant qu'on était en activité. C'est un discours qui s'entend. Celui-ci m'écrit « Bientôt les retraités devront demander pardon d'être encore vivants ». Vous voyez l'ambiance.
Non, mais effectivement, je voulais dire souligner ce point. Le graphique de France Stratégie qu'évoque Urbain est intéressant, mais effectivement, ne reflète pas qu'il y a eu beaucoup de contributions. Donc les retraités aujourd'hui, hier étaient jeunes et hier ont payé pour les retraités. Ce qui serait intéressant, c'est, et je pense que ce chiffre n'est pas aisément accessible.
Pour rappeler que quand on paye pour la retraite, on paye pour le retraité d'aujourd'hui.
Aujourd'hui,
on ne cotise pas pour soi en mettant de l'argent de côté.
Donc ce qui serait, je pense que le chiffre qu'on voudrait, c'est de calculer un taux de rendement implicite. Donc c'est-à-dire que j'ai payé hier pour les retraités d'hier et aujourd'hui je reçois une retraite. Et donc si j'avais pu le placer dans un système, cet argent dans un système par capitalisation, quel aurait été en fait mon taux de rendement implicite?
Mais le corps l'a un peu fait.
Et peut-être que le corps l'a fait.
Et donc, c'est pas très en faveur des générations passées. C'est-à-dire que
ça, ça baisse au cours du temps.
En faveur,
ça
baisse au cours du temps. Le rendement est monstrueusement élevé. C'est-à-dire que le 1 euro de cotisation fait dans les années 60, 70, 80 génère aujourd'hui des pensions extrêmement élevées comparé à l'euro d'aujourd'hui qui génère avec le système actuel des pensions extrêmement faibles et qui, s'il était dans un système de capitalisation, générait 3 ou 4 fois plus.
Oui, il y a
correctement géré.
Non, mais il y a une
Les quelques fonds de capitalisation qui existent en France, malheureusement, ont des performances qui sont absolument ridicules par rapport à des fonds de capitalisation normaux. Mais
on pourrait faire mieux quand même.
On va marquer une pause. On change de sujet après. On va parler des banques centrales. Sapiens avait fait une note justement là-dessus sur ce qu'on a payé en tant qu'actif autrefois. Est-ce que ça rapporte en tant que retraité aujourd'hui? Et c'est sûr que là, on trouve un argument qui va plutôt dans votre sens. Bon, je vais regarder les réactions parce que j'en ai plein. Ça doit, à mon avis, être assez trash, j'imagine, comme toujours sur ce sujet. Les banques centrales, la BCE doit baisser ses taux maintenant, tout de suite. La Banque du Japon décide de modifier sa politique de taux négatif. Il y a un mouvement de hausse de salaire au Japon, ce qui est assez rare là-bas. C'est le seul pays où, globalement, les salariés ne demandent pas d'augmentation. Mais le Japon n'est pas un pays comme les autres. On marque une pause, à tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.